France Culture.
Mais d'abord, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction. Et vous, Thomas Cluzel, rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Ces détracteurs l'ont rebaptisé le décret sanction. Il prévoit de diminuer, même parfois de couper directement les allocations aux chômeurs et aux détenteurs du RSA. Et pour s'y opposer, 11 associations ont décidé d'attaquer l'État français en justice. Avec notre invité aujourd'hui, on parlera des effets du populisme d'extrême droite sur l'avenir, justement, de la protection sociale. On s'interrogera par ailleurs sur les pistes possibles pour mieux contrôler les polluants éternels dans nos vies et puis l'actualité à l'étranger. On se rendra tout d'abord dans la bande de Gaza avec les secouristes à la recherche des corps sous les ruines de la guerre. Nous irons aux États-Unis pour tâcher de comprendre ce qui a conduit le président Donald Trump à annuler hier sa prochaine rencontre avec Vladimir Poutine. Enfin, nous découvrirons ensemble les lauréats du prix Sakharov 2025 pour la liberté de penser. Depuis le début de la semaine, l'examen en commission des projets de budget de l'État et de la sécurité sociale augure de très vifs débats à venir dès vendredi prochain à l'Assemblée, en particulier s'agissant des économies escomptées par le gouvernement grâce au gel de l'ensemble des prestations sociales, allocations familiales, APL, RSA, pour ne citer qu'elles. Alors il se trouve qu'une dizaine d'associations soutenues par 5 syndicats n'ont pas attendu, elles, pour dénoncer toutes les formes de régression susceptibles d'appauvrir, d'avoir encore les plus précaires, et c'est ainsi qu'elles ont choisi carrément d'attaquer l'État en justice, donc en déposant un recours devant le Conseil d'État contre un décret entré en vigueur le 31 mai dernier et permettant de sanctionner les demandeurs d'emploi et allocataires du RSA en diminuant, voire en supprimant leurs allocations. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, ces 11 associations tenaient une conférence de presse à laquelle vous avez assisté, Catherine.
Oui, parce qu'avec ce décret que vous évoquiez, désormais toute personne inscrite à France Travail est menacée de se voir suspendre de 30% à la totalité de son indemnité chômage ou de son RSA, et ça dès le premier manquement aux nouvelles obligations. Alors ce que dénoncent les organisations, et c'est d'ailleurs aussi une partie des fondements juridiques de leur recours, c'est d'abord le caractère aléatoire des sanctions. Cela dépend en fait des départements qui peuvent choisir de supprimer la totalité de l'allocation dès le premier manquement ou alors d'y aller de manière progressive. C'est en ce moment que ça se décide et c'est une atteinte, estiment les associations, au principe d'égalité. L'autre point crucial, alerte et les syndicats et les associations, c'est que ces sanctions, ce sont une menace sur ce qui est en fait, quand on parle du RSA, un revenu minimum d'existence. Rappelons que le RSA pour une personne seule, c'est 646 €, c'est 2 fois moins que le seuil de pauvreté. ATD Quart-Monde, par exemple, a rappelé ce matin combien la pauvreté, ce n'est pas seulement une question monétaire, mais bien un ensemble d'insécurités liées au logement, à la santé, aux mobilités, etc. Et souligner combien cette nouvelle approche des plus précaires vient ajouter de la difficulté plutôt que de la sécurité. Même constat du côté de Solidarité Paysan. L'association accompagne tous les jours des agriculteurs dont l'activité n'est pas rémunératrice, d'où le recours au RSA, mais pas non plus reconnu comme une activité. Dès lors qu'ils n'ont plus ce revenu minimum d'existence, toutes ces personnes se retrouvent dans une plus grande précarité. Du côté de France Travail, c'est aussi un changement de paradigme qui est dénoncé, le passage d'une logique d'accompagnement à une logique de sanctions, alors que, vous l'évoquiez, débutent les discussions budgétaires. C'est globalement le développement d'une politique qui menace les plus fragiles qu'ont dénoncé toutes ces associations. Quant au recours Thomas au Conseil d'État, la date de son examen devrait être connue dans les prochains jours.
Merci Catherine Pétillon. Alors s'agissant toujours de l'avenir des prestations sociales, voilà qu'un rapport publié aujourd'hui alerte sur les effets du populisme d'extrême droite. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, son auteur Olivier De Schutter, rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, en direct de New York. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On vient de l'entendre, plusieurs associations ont choisi de déposer donc un recours devant le Conseil d'État pour contester la politique de sanction des chômeurs et des bénéficiaires du RSA de la France. Diriez-vous que cette politique française est aujourd'hui exemplaire du mouvement de résorption de la protection sociale auquel on assiste dans le monde ?
Oui, tout à fait. Cette évolution n'est pas vraiment nouvelle. Elle date d'il y a même une vingtaine d'années. Mais elle prend aujourd'hui des proportions tout à fait inquiétantes. Et d'ailleurs, j'ai écrit au gouvernement français il y a 2 mois de cela pour lui faire savoir mes préoccupations. J'attends du gouvernement qu'il me réponde encore. Et je crois que ce qui est très inquiétant, c'est que cette guerre aux pauvres, qui est en train de prendre la place de la lutte contre la pauvreté, crée une sorte de défiance à l'égard de l'État, à l'égard des services sociaux. Je connais des familles qui hésitent à introduire une demande de bénéficier du RSA parce qu'elles craignent une enquête sur elles. Elles craignent éventuellement qu'on retire l'enfant. Elles craignent qu'on aille examiner si elles n'ont pas recouru au travail en noir. Et donc, le taux de non-recours au droit, le nombre de personnes qui ne vont pas demander les aides auxquelles elles ont droit, va augmenter. Et ceci crée une défiance qui fait le lit de l'extrême droite. La France, comme d'autres, voit monter le populisme d'extrême droite qui prospère sur cette insécurité économique et sur cette anxiété que l'on crée dans le chef des classes populaires et des classes moyennes.
Dans votre rapport, en reprenant donc une opposition classique dans la recherche anglophone, vous décrivez un recul progressif du welfare state, c'est-à-dire une aide inconditionnelle de l'État-providence au profit d'un workfare state, autrement dit des politiques sociales dépendantes donc de mesures d'activation. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, ce basculement aujourd'hui ?
Oui, ce glissement, cette contractualisation au fond de l'aide sociale, subordonnée à des prestations d'activité en France avec ce décret qui vient maintenant réformer le RSA, c'est l'idée que la meilleure façon d'aider les gens, c'est de les inciter à trouver du travail. Mais ce qui doit être activé, ce sont les services qui aident les personnes, qui accompagnent les personnes à trouver du travail. Ce n'est pas culpabiliser les personnes qui ne trouvent pas de travail, qui va permettre de surmonter cette difficulté et de créer cette inclusion par le travail. Donc le grand problème, si vous voulez, de ces évolutions, dont la France est un exemple parmi d'autres, c'est que l'on impute la responsabilité de la pauvreté à l'individu, alors que c'est vraiment une société qui doit être plus inclusive, qui doit reconnaître la diversité des parcours, qui doit valoriser les compétences acquises à travers l'expérience, et qui doit surtout aider, créer de la confiance, donner aux gens confiance en eux-mêmes, plutôt que de recourir à la punition et à la sanction. On ne va pas résoudre la question de la pauvreté et de l'exclusion sociale en criminalisant de plus en plus les pauvres et en sanctionnant l'absence d'efforts dans leur chef.
En 2019, votre prédécesseur prévenait contre le risque, je cite, d'un monde dystopique où la protection sociale serait entièrement dématérialisée. Et aujourd'hui, vous reprenez ces mots pour affirmer ce qu'il décrivait donc comme un risque devenu désormais une réalité. En quoi la dématérialisation de la protection sociale a-t-elle une dimension dystopique ?
Écoutez, on a tellement peur de la fraude sociale, de l'abus des prestations sociales, que l'on met sur pied aujourd'hui des algorithmes qui facilitent la détection de ces fraudes. Mais malheureusement, ces algorithmes conduisent à cibler en particulier les personnes les plus fragilisées, dont effectivement les algorithmes montrent qu'elles sont plus nombreuses, par définition, à solliciter des aides. Et donc, on a eu, par exemple, la Caisse des allocations familiales en France, qui a ciblé de manière discriminatoire les familles monoparentales, les personnes en situation de handicap, des personnes qui ont été particulièrement ciblées par ces algorithmes, les suspectant de fraude. Et donc, cela aussi, cela peut décourager les personnes de solliciter les services auxquels elles ont droit, de solliciter les aides auxquelles elles ont droit, parce que ces contrôles vont s'appliquer à elles. Et on a, dans d'autres cas, en Australie, au Royaume-Uni, des exemples semblables où la digitalisation, la numérisation de l'aide sociale conduit à renforcer la surveillance dont les personnes font l'objet, avec des impacts discriminatoires sur les plus vulnérables.
C'est bien noté. Merci Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l'ONU donc sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, d'avoir répondu à notre invitation en direct depuis New York. Et merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Ni abrogé, ni même suspendu, mais simplement décalé dans le temps.
C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a tenu hier à expliciter la nature de la concession annoncée par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour éviter la censure immédiate de l'Assemblée. Alors inutile de préciser combien la sortie du président a semé la confusion et surtout ravivé le débat autour de son emblématique réforme plus que jamais controversée. Mais pas seulement, car cet épisode est intervenu en l'occurrence lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron en Slovénie, soit une illustration supplémentaire de ce qu'à 18 mois de la fin de son bail à l'Élysée, le chef de l'État a décidément bien du mal à se contenter du rôle de plus en plus ténu auquel l'obligent ses prérogatives constitutionnelles. Lui qui, à son arrivée en 2017, avait absolument tous les leviers en main, quoi qu'il en soit, le chef du gouvernement a tenu lui à rassurer aussitôt les socialistes en précisant que la suspension de la réforme serait bel et bien actée par une lettre rectificative au projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sera adoptée dès demain en Conseil des ministres.
Le musée du Louvre a rouvert ses portes ce matin aux horaires habituels, à l'exception toutefois de la galerie d'Apollon, là où a eu lieu le cambriolage de dimanche dernier.
Et c'est dans ce contexte que la présidente directrice du Louvre, Laurence Descartes, silencieuse jusque-là, s'exprimera cet après-midi devant la commission de la culture du Sénat pour un moment de vérité, sans doute aussi de grande solitude. Comment expliquer l'invraisemblable, le vol dans le musée le plus visité au monde de certains des joyaux les plus précieux de la couronne de France? Pour leur l'enquête se poursuit en coulisses pour tenter de mettre la main sur les quatre cambrioleurs et surtout leur incroyable butin d'une valeur de 88 millions d'euros, une estimation qui par ailleurs ne tient pas compte, bien entendu, de leur valeur patrimoniale irremplaçable. Enfin, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, estime ce matin, je le cite, que le problème de sécurité au musée ne date pas d'hier et qu'il était connu de l'administration. Fin de citation. Lui était entendu ce matin par les députés après une première audition déjà la semaine dernière face au sénateur. Lui, c'est Jean Castex, l'ancien Premier ministre passé à la RATP, a été désigné par Emmanuel Macron pour prendre les rênes de la SNCF. Et a priori, l'issue du processus ne laisse que peu de place au doute, sauf surprise majeure. Les membres des commissions des deux chambres devraient valider son changement de casquette. Et puis c'est encore un fidèle parmi les fidèles qui succède à Laurent Nunez, à la tête de la prestigieuse préfecture de police de Paris. Patrice Faure, cet ancien militaire au parcours atypique et au verbe franc, lequel dirigeait depuis début 2024 le cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée, a été nommé ce matin par le chef de l'État.
Comment mieux surveiller la présence dans nos vies des PFAS, ces polluants éternels?
Une vaste question à laquelle tente malgré tout de répondre ce matin l'ANSES dans un rapport de 700 pages. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail dresse la synthèse des connaissances scientifiques et des évaluations sanitaires de ces substances donc très résistantes et dont certaines sont déjà connues pour leur toxicité. Rémi Brancato, bonjour.
Bonjour.
L'agence avait été saisie il y a 3 ans déjà en réalité par les services de l'État pour dresser donc un bilan de la contamination et tenter notamment de catégoriser ces PFAS les plus dangereux, ou du moins un travail évidemment colossal.
Oui, l'agence a épluché 2 millions de documents, des études scientifiques, des données de surveillance en France, à l'étranger. Elle tente de définir les milieux les plus touchés avec beaucoup de données pour l'eau, mais quasiment pas pour l'air ou le sol. Autre angle mort, la contamination humaine, très peu documentée. Le rapport identifie aussi des sources de cette pollution, les emballages alimentaires, les produits au contact de l'eau, mais aussi les boues d'épuration ou encore certains matériaux de construction. L'ANSES dit manquer toutefois de données sur ces sources et demande plus d'investigation.
Et puis, l'avis de l'ANSES formule également, Rémi, des préconisations afin de mieux surveiller les PFAS.
L'agence liste ainsi 247 PFAS et propose de renforcer la surveillance. Elle n'existe pas pour l'air, les sols, les poussières. Il faut la mettre en place. Pour l'eau de notre robinet, 20 substances sont ciblées par l'Europe. La France les surveillera à partir du 1er janvier. Le rapport préconise d'en ajouter 5. Quant à notre alimentation, il faut multiplier par 5 le nombre de PFAS surveillés, détaille Céline Druet, directrice adjointe à l'évaluation des risques de l'ANSES.
La réglementation aujourd'hui ne concerne que 4 molécules. Dans certains types d'aliments. Il existe des données qui montrent une présence d'autres PFAS. On préconise qu'une liste beaucoup plus importante puisse être recherchée dans de nombreux aliments.
Le rapport cible entre autres l'acide trifluoroacétique, le TFA, molécule issue notamment de la décomposition de certains pesticides très répandus.
Merci Rémi Brancato.
Le vice-président américain J.D. Vance, en visite en Israël, n'en démord pas.
Il se dit toujours optimiste sur le maintien d'un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza, tout en évoquant une tâche très difficile avant le désarmement du Hamas. De son côté, l'État hébreu a annoncé hier soir avoir récupéré 2 nouvelles dépouilles d'otages, ce qui porte à 15 aujourd'hui le nombre de corps restitués sur les 28 retenus par le mouvement islamiste, de quoi illustrer la difficulté à retrouver des défunts ensevelis sous les ruines de cela, guerre de représailles totales et sans discernement menée par l'armée israélienne, ce qui vaut tout autant pour les milliers, cette fois-ci, de morts palestiniens, d'autant plus que ce travail absolument titanesque est réalisé avec des moyens ridiculement dérisoires. Notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre, a réussi, grâce au concours de Ferial Abdou, à recueillir plusieurs témoignages au cœur même de l'enclave palestinienne.
Il y a, selon la défense civile de Gaza, encore 10 000 corps sous les décombres.
C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est épuisant pour les équipes.
Le colonel Raed Al-Dashan dirige les secouristes de l'enclave.
Dans beaucoup d'endroits, les corps sont en décomposition et sont mélangés au béton. Certaines dépouilles sont envoyées dans les hôpitaux. Elles sont conservées pendant 5 jours. Si pendant cette période, le corps n'est pas identifié, il est enterré et marqué. Comme ça, si un jour un proche se manifeste, il pourra encore le reconnaître.
La défense civile n'a pas assez d'engins de chantier et de matériel de détection. Même les équipements les plus rudimentaires manquent. Selon Ibrahim Abou Al-Rich, c'est le directeur du centre de secours d'Al-Rimal.
Nos sauveteurs risquent leur vie pendant les opérations. Ils ne sont pas protégés. Nous n'avons pas assez de combinaisons, de gants ou de masques adaptés.
Et puis la défense civile manque évidemment de personnel. 22 sauveteurs sont morts depuis plus de 2 ans. Plus de 150 ont été blessés.
Et pendant ce temps, les organisations humanitaires s'efforcent d'intensifier leur assistance. C'est aujourd'hui d'ailleurs que la plus haute juridiction de l'ONU doit statuer justement sur les obligations d'Israël envers les organismes fournissant une aide aux Palestiniens à Gaza. À ceux qui se demandaient éventuellement si une réunion Trump-Poutine pourrait avoir le moindre impact sur l'issue de la guerre en Ukraine, le président américain a porté lui-même la réponse hier en annonçant le report sinédié du dit sommet. Je ne veux pas d'une rencontre pour rien, a notamment expliqué le locataire de la Maison Blanche. Précision aux États-Unis d'Isabelle Labéry.
Les préparatifs sont pour l'instant suspendus. Les chefs de la diplomatie, Marco Rubio et Sergueï Lavrov, se sont bien parlé au téléphone, mais ils ont décidé de ne pas se rencontrer jeudi comme prévu. Les positions restent trop éloignées. Dans un document officieux transmis le week-end dernier aux États-Unis, la Russie a réitéré ses conditions. S'il doit y avoir un accord de paix, elle veut récupérer l'intégralité du Donbass dans l'est de l'Ukraine, ce qui est incompatible avec la proposition de Donald Trump de geler les lignes de front, car les Ukrainiens contrôlent encore 25 à 30% de l'oblast de Donetsk. Puisque l'initiative patine côté américain, les Européens tentent de reprendre la main en élaborant un nouveau plan. Une réunion de la coalition des volontaires doit se tenir vendredi à Londres avec Volodymyr Zelensky. Et dès aujourd'hui, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, est reçu à la Maison Blanche. Il détaillera les propositions des 27 pour un cessez-le-feu. Ce nouveau texte mentionne un comité de la paix qui serait chargé de superviser la mise en œuvre du plan, un comité présidé par Donald Trump, exactement ce que le président américain a proposé pour Gaza.
Et je précise encore que le président ukrainien est arrivé ce matin en Norvège avant de se rendre dans la foulée en Suède pour une annonce dans le domaine de la défense. Enfin, les 27 se réuniront, eux, demain à Bruxelles en présence, là aussi, de Volodymyr Zelensky avec l'objectif de prolonger l'aide de l'Union européenne à Kiev. Enfin, le Parlement européen désignait ce matin le vainqueur du prix Sakharov 2025 pour la liberté de penser. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Bruxelles. Le prix a été décerné il y a quelques minutes à 2 journalistes emprisonnés, l'un de Biélorussie et l'autre de Géorgie.
Effectivement, cela fait 15 ans qu'en Biélorussie, le journaliste, essayiste et blogueur Andrzej Poczobut s'est imposé comme une des voix les plus critiques de l'autocrate Alexandre Loukachenko, régulièrement accusé de participation à des rassemblements non autorisés, de diffamation envers le président biélorusse et même d'extrémisme. Andrzej Poczobut purge actuellement une peine de 8 ans d'emprisonnement dans un camp de travail, parfois placé à l'isolement, sans recevoir les soins médicaux dont il aurait besoin, et sans que sa famille puisse lui rendre visite. Sa consœur géorgienne, Emzia Amaglobeli, est elle aussi en prison, journaliste, directrice de médias en ligne. Elle a été arrêtée en début d'année pour avoir collé des affiches sur un commissariat et pour avoir giflé un policier qui l'insultait. Sa condamnation à 2 ans de prison officiellement pour attaque contre un policier a soulevé une vague d'indignation en Géorgie et plus largement jusqu'à Reporters sans frontières qui a dénoncé un procès partial et entaché d'irrégularités. Emzia Amaglobeli est en Géorgie la première journaliste à être emprisonnée pour des motifs politiques depuis la dislocation de l'Union soviétique.
Merci Fabien Cazot, en direct de Bruxelles. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. L'extrême sud du pays bénéficiera d'un ciel ensoleillé partout ailleurs. Le temps sera changeant avec même des pluies attendues sur la façade atlantique, les régions du centre-est et le couloir rhodanien. Quant aux températures, elles seront comprises entre 13 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Fabien Etchecopar et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurore Richard pour le prochain journal de la rédaction.